Mark Twain, Nuit sans sommeil. Nous fûmes au lit à 10 heures, car nous devions nous lever au petit jour pour continuer notre route vers chez nous. J'étais un peu énervé, mais Harris s'endormit tout de suite. Il y a dans cet acte un je ne sais quoi qui n'est pas exactement une insulte, mais qui est pourtant une insolence, et une insolence pénible à souffrir. Je réfléchissais sur cette injure, et cependant j'essayais de m'endormir. Mais plus j'essayais, plus je m'éveillais. J'en vins à méditer tristement dans l'obscurité, sans autre compagnie qu'un dîner mal digéré. Mon esprit partit peu à peu et aborda le début de tous les sujets sur lesquels on n'est jamais réfléchi, mais sans aller jamais plus loin que le début. C'était toucher et partir. Il volait de pensée en pensée avec une prodigieuse rapidité. Au bout d'une heure, ma tête était un parfait tourbillon. J'étais épuisé, fatigué à mort. La fatigue devint si grande qu'elle commença à lutter avec l'excitation nerveuse. Tandis que je me croyais encore éveillé, je m'assoupissais en réalité dans une inconscience momentanée, d'où j'étais violemment tiré par une secousse qui rompait presque mes articulations, l'impression du moment étant que je tombais dans quelque précipice. Après avoir dégringolé dans 8 ou 9 précipices, et m'être ainsi aperçu que la moitié de mon cerveau s'était éveillée à plusieurs reprises, tandis que l'autre moitié dormait, soupçonné de la première qui luttait pour résister, l'assoupissement complet commença à étendre son influence graduelle sur une plus grande partie de mon territoire cérébral, et je tombais dans une somnolence qui devint de plus en plus profonde et qui était sans doute sur le point de se transformer en solide et bienfaisante stupeur, pleine de rêves quand... Ah ! Qu'y avait-il donc ? Mes facultés obscurcies furent en partie ramenées vers la conscience et prirent une attitude réceptive. Là-bas, d'une distance immense, illimitée, venait quelque chose qui grandissait, approchait, et qu'on put bientôt reconnaître pour un son. Au début, cela ressemblait plutôt à un sentiment. Ce bruit était à 1 kilomètre maintenant. Peut-être le murmure d'une tempête. Puis il s'approchait. Il n'était pas à 1/4 mile. Était-ce le grincement étouffé d'une machine lointaine ? Non. Le bruit s'approchait, plus près encore, plus près, et à la fin, il fut dans la chambre même. C'était simplement une souris en train de grignoter la boiserie. Ainsi, c'était pour cette bagatelle que j'avais si longtemps retenu ma respiration. Bien, c'était une chose faite, il n'y avait pas à y revenir. J'allais m'endormir tout de suite et réparer le temps perdu. Vaine pensée. Sans le vouloir, sans presque m'en douter, je me mis à écouter le bruit attentivement et même à compter machinalement les grincements de la râpe à muscade de la souris. Bientôt cette occupation me causa une souffrance raffinée. Cependant, j'aurais peut-être supporté cette impression pénible si la souris avait continué son œuvre sans interruption. Mais non, elle s'arrêtait à chaque instant, et je souffrais bien plus en écoutant et attendant qu'elle reprît que pendant qu'elle était en train. Au bout de quelque temps, j'aurais payé une rançon de 5, 6, 7, 10 dollars pour être délivré de cette torture. Et à la fin, je ferai le payer des sommes tout à fait en disproportion avec ma fortune. Je rabattis mes oreilles, c'est-à-dire je ramenais les pavillons et les roulais en 5 ou 6 plis, et les pressais sur le conduit auditif, mais sans aucun résultat. Mon ouïe était si affinée par l'énervement que j'avais comme un microphone et pouvais entendre à travers les plis sans difficulté. Mon angoisse devenait de la frénésie. À la fin, je fis ce que tout le monde a fait depuis Adam en pareil cas. Je décidai de jeter quelque chose. Je cherchais au bas du lit et trouvai mes souliers de marche. Puis je m'assis dans le lit et attendis afin de situer le bruit exactement. Je ne pus y parvenir. Il était aussi peu situable qu'un cri de grillon. On croit toujours qu'il est là où il n'est pas. Je lançai donc un soulier au hasard, avec une vigueur sournoise. Le soulier frappa le mur au-dessus du lit d'Harris et tomba sur lui. Je ne pouvais pas supposer qu'il irait si loin. Harris s'éveilla, et je m'en réjouis jusqu'au moment où je m'aperçus qu'il n'était pas en colère. Alors je fus désolé. Il se rendormit rapidement, ce qui me fit plaisir. Mais aussitôt, le grignotement recommença, ce qui renouvela ma fureur. Je ne voulais pas éveiller de nouveau Harris, mais le bruit continuant me contraignit à lancer l'autre soulier. Cette fois, je brisai un miroir, il y en avait deux dans la chambre. Je choisis le plus grand, naturellement. Harris s'éveilla encore, mais il n'eut aucune plainte, et je fus plus triste qu'avant. Je me résolus à subir toutes les tortures humaines plutôt que de l'éveiller une troisième fois. La souris pourtant s'éloigna, et peu à peu je m'assoupissais quand une horloge commença à sonner. Je comptais tous les coups et j'allais me rendormir lorsqu'une autre horloge sonna. Je comptais. Alors les deux anges du grand carillon de l'hôtel de ville se mirent à lancer de leurs longues trompettes des sons riches et mélodieux. Bon, je n'avais jamais ouï de notes plus magiques, plus mystérieuses, plus suaves. Mais quand ils se mirent à sonner les quarts d'heure, je trouvais la chose exagérée. Chaque fois que je m'assoupissais un moment, un nouveau bruit m'éveillait. Chaque fois que je m'éveillais, je faisais glisser la couverture et j'avais à me pencher jusqu'au sol pour la rattraper. À la fin, tout espoir de sommeil s'enfuit. Je dus reconnaître que j'étais décidément et désespérément éveillé, tout à fait éveillé. Mais en outre, j'étais fiévreux et j'avais soif. Après être resté là, me tourner, me retourner aussi longtemps que je pus, il me vint l'idée excellente de me lever, de m'habiller, de sortir sur la grande place pour prendre un bain rafraîchissant dans le bassin de la fontaine et attendre le matin en fumant et en rêvant. Je pensais pouvoir m'habiller dans l'obscurité sans éveiller Harris. J'avais exilé mes souliers au pays de la souris, mais les pantoufles suffisaient pour une nuit d'été. Je me levais donc doucement, et je trouvais graduellement tous mes effets, sauf un de mes bas. Je ne pouvais tomber sur sa trace malgré tous mes efforts. Il me le fallait cependant. Je me mis donc à quatre pattes, et m'avançai à tâtons, une pantoufle au pied, l'autre dans la main, scrutant le plancher, mais sans résultat. J'élargis le cercle de mon excursion et continuai à chercher en tâtonnant. À chaque fois que se posait mon genou, comme le plancher craquait, et quand je me heurtais au passage contre quelque objet, il me semblait que le bruit était 35 ou 36 fois plus fort qu'en plein jour. Dans ce cas-là, je m'arrêtais et retenais ma respiration, pour m'assurer que Harris ne s'était pas éveillé. Puis je continuais à ramper. J'avançais de côté et d'autre, sans pouvoir trouver le bas. Je ne rencontrais absolument pas autre chose que des meubles. Je n'aurais jamais supposé qu'il y eût tant de meubles dans la chambre au moment où je vais me coucher. Mais il en grouillait partout maintenant, spécialement des chaises. Il y avait des chaises à tous les endroits. Deux ou trois familles avaient-elles emménagé dans l'intervalle? Et jamais je ne découvrais une de ces chaises à temps, mais je les frappais toujours en plein et carrément de la tête. Mon irritation grandissait, et tout en rampant de côté et d'autre, je commençais à faire à voix basse d'inconvenantes réflexions. Finalement, dans un avis en accès de fureur, je décidai de sortir avec un seul bas. Je me levai donc et me dirigeai à ce que je pensais vers la porte, et soudain je vis devant moi mon image obscure et spectrale dans la glace que je n'avais pas brisée. Cette vue m'arrêta la respiration un moment. Elle me prouva aussi que j'étais perdu et ne soupçonnais même pas où je pouvais être. Cette pensée me chagrina tellement que je dus m'asseoir sur le plancher et saisir quelque chose pour éviter de faire éclater le plafond sous l'explosion de mes sentiments. S'il n'y avait eu qu'un miroir, peut-être aurait-il pu me servir à m'orienter. Mais il y en avait deux, et c'était comme s'il y en avait eu 1000. D'ailleurs, ils étaient placés sur de les murs opposés. J'apercevais confusément la lueur des fenêtres, mais dans la situation résultant de mes tours et détours, elle se trouvait exactement là où elle n'aurait pas dû être et ne servait donc qu'à me troubler au lieu de m'aider à me retrouver. Je fis un mouvement pour me lever et je fis tomber un parapluie. Il heurta le plancher, dur, lisse, nu, avec le bruit d'un coup de pistolet. Je grinçais les dents et retins ma respiration. Harris ne remua pas. Je relevai doucement le parapluie et le posai avec précaution contre le mur. Mais à peine eus-je retiré la main que son talon glissa sous lui et qu'il tomba avec un autre bruit violent. Je me recroquevillai et j'attendis un moment dans une rage muette. Pas de mal, tout était tranquille. Avec le soin le plus scrupuleux et le plus habile, je redressai le parapluie une fois de plus, retirai la main, et il tomba de nouveau. J'ai reçu une éducation excellente, mais si la chambre n'avait pas été plongée dans une sombre, solennelle et effrayante tranquillité, j'aurais sûrement proféré une de ces paroles qu'on eût pu mettre dans un livre de l'école du dimanche sans en compromettre la vente. Si mes facultés mentales n'avaient été depuis longtemps réduites à néant par l'épuisement où je me trouvais, je n'aurais pas essayé une minute de faire tenir un parapluie debout dans l'obscurité sur un de ces parquets allemands polis comme une glace. En plein jour, on échouerait une fois sur cinq. J'avais une consolation pourtant, Harris demeurait calme et silencieux. Il n'avait pas bronché. Le parapluie ne pouvait me donner aucune indication locale. Il y en avait quatre dans la chambre et tous pareils. Alors je pensais qu'il serait pratique de suivre le mur en essayant de trouver la porte. Je me levai pour commencer mon expérience et je décrochai un tableau. Oh, ce n'était pas un grand tableau, mais il fit plus de bruit qu'un panorama. Harris ne bougea pas. Mais je compris qu'une autre tentative picturale l'éveillerait sûrement. Il valait mieux renoncer à sortir. Le mieux était de retrouver au milieu de la chambre la table ronde du roi Arthur, Oh, je l'avais déjà rencontré plusieurs fois, et de m'en servir comme point de départ pour une exploration vers mon lit. Si je pouvais atteindre mon lit, je retrouverais mon pot à eau, je calmerais ma soif dévorante et me recoucherais. Je repartis donc à quatre pattes. J'allais plus vite de cette façon et aussi plus sûrement, sans risquer de rien réveiller et de rien renverser. Au bout d'un moment, je trouvais la table avec ma tête, me frottais un peu le front, puis me levais et partis, les mains allongées et les doigts écartés pour tenir mon équilibre. Je trouvais une chaise, puis le mur, puis une autre chaise, puis un sofa, puis un alpenstock, puis un autre sofa. Cela me troubla car je pensais qu'il n'y avait qu'un sofa dans la chambre. Je regagnai la table pour m'orienter et repartir. Je trouvai quelques chaises de plus. Il arriva maintenant, comme sans doute il était arrivé tout à l'heure, que la table étant ronde, n'était d'aucune valeur comme base pour un départ d'exploration. Je l'abandonnai donc une fois de plus et m'en allai au hasard à travers la solitude des chaises et des sofas. J'errai dans des pays inconnus et fis tomber un flambeau de la cheminée. En cherchant le flambeau, je renversai un pot à eau qui vit un fracas terrible, je dis en moi-même. Oh, vous voilà enfin, je pensais bien que vous étiez par là. Harris murmura « Au meurtre, au voleur !» et ajouta « Je suis absolument trempé !» Mais c'était l'autre pot à eau. Le bruit avait réveillé toute la maison. Monsieur X entra précipitamment dans son long vêtement de nuit, tenant un bougeoir. Le jeune Z, après lui, avec un autre bougeoir. Une procession par une autre porte avec des flambeaux et des lanternes, l'hôte et deux voyageurs allemands en robe de chambre, ainsi qu'une femme de chambre aussi. Je regardais, j'étais auprès du lit d'Harris, à un jour de voyage du mien. Il n'y avait qu'un sofa, il était contre le mur. Il n'y avait qu'une chaise à ma portée. J'avais tourné autour d'elle comme une comète, la heurtant comme une comète à moitié de la nuit. J'expliquais ce qui m'était arrivé et pourquoi cela était arrivé. Les gens de la maison se retirèrent et nous nous occupâmes du déjeuner car l'aurore pointait déjà. Je jetai un coup d'œil furtif sur mon podomètre et trouvai que j'avais parcouru 47 miles. Mais peu importait puisque, après tout, je voulais sortir pour faire un tour.